France Inter. Le 18-20. Fabienne Sintès.
Après l'accord entre les Insoumis et les Verts, on a parlé d'accord historique. Désormais, les communistes sont de la partie. Le PS, lui, se fait attendre. À ce stade, comment qualifier ce qui se passe à gauche? Est-ce que c'est un tournant, une résurrection, un pari? Le pacte avec la France Insoumise, arrivé en tête de la gauche après le premier tour, est-il faustien? Est-ce que ceux qui s'allient vendent leur âme au passage? Est-ce que c'est un accord global, donc sur le fond comme sur la forme? Est-ce que c'est un accord de circonstance, donc rendu nécessaire, mais qui exploserait à l'exercice du pouvoir ou pas? Est-ce que c'est un accord de gouvernement ou un accord purement électoraliste? Sans vouloir jouer les normands de la politique, c'est un petit peu tout à la fois, ça dépend qui, ça dépend où. On a bien compris donc que c'est pour les socialistes que les choses sont les plus difficiles, d'autant que le PS a une implantation locale, s'accorder sur les circonscriptions. Est-ce que c'est jouer aux quilles, sacrifier du monde en route? Ça c'est pour la forme, mais le nombre d'élus évidemment a une importance cruciale. Sur le fond de ces discussions, c'est flagrant pour ce qui concerne les Verts sur l'Europe, ça l'est pour les communistes sur le nucléaire. On voit surtout qu'on a mis sous le tapis les grands désaccords qui rendaient précisément les gauches irréconciliables il y a encore moins d'un mois. Comment les choses se passeraient-elles si Jean-Luc Mélenchon gagnait son pari et donc la majorité à l'Assemblée? Comment les choses se passeraient-elles si la gauche ne remportait pas cette majorité? C'est notre discussion ce soir dans Le Téléphone Sonne et soyez les bienvenus.
Le Téléphone Sonne. 01 45 24 7000.
Le premier, c'est vous, Michel. Bonsoir et bienvenue.
Oui, bonsoir. Donc, merci pour vos émissions classiques. Merci vivement. Donc, j'adjure les représentants du Parti Socialiste, moi qui suis un sympathisant depuis 50 ans, je les adjure de faire le maximum sans être grossier, sans baisser leur culotte, comme on dit vulgairement, mais pour qu'il y ait un accord impérativement, sinon le Parti Socialiste va disparaître et ça serait éminemment triste pour tous les démocrates, tous les progressistes, compte tenu de ce qui se passe actuellement et toutes les attaques contre les progrès sociaux qu'Emmanuel Macron a fait ou a consacré pendant ces 5 ans. Donc de grâce, là je m'adresse aux représentants du Parti Socialiste, négocier, ce sera difficile effectivement, mais sur l'Europe pour ceux d'un pouvoir, il y a évidemment les circonscriptions, il y a préférence aux sortants, ce qui est une évidence. Mais de grâce, qu'ils veuillent bien s'accorder. Si le PC et les Verts se sont mis d'accord, les socialistes doivent se mettre d'accord aussi pour que soit 80 et quelques années, non, 30, 36, 80, je ne sais plus combien, enfin le 3 mai 1936, ça fait 84 ans ou 86 ans.
86, nous dit Jérôme Jaffray, qui a une calculette.
86 ans, effectivement.
Dans la tête.
Et puis pour le programme commun qui a été négocié en 72, nos élus socialistes doivent, nos représentants doivent se mettre d'accord, de grâce. Et j'habite une banlieue huppée, moi, dans le 92, Marne-la-Coquette, pour ne pas la citer. Bon, on est très peu nombreux, mais on est tous d'accord, il faut un accord impérativement.
Merci beaucoup, Michel. On a entendu que vous adjuriez donc le PS de signer cet accord. On va en discuter ensemble jusqu'à 20h avec Marc Lazare, qui est là. Bonsoir, monsieur Lazare.
Bonsoir.
Vous êtes historien, sociologue, spécialiste des gauches européennes, et Jérôme Jaffray là également. Bonsoir, monsieur Jaffray.
Bonsoir.
Politologue, évidemment, chercheur notamment associé au CEVIPOF. Il adjure notre ami Michel, la gauche de 100 ans. D'abord, est-ce qu'on est un peu dans le secret des dieux, Jérôme Jaffray? Est-ce qu'on se dit qu'on est au bord de quelque chose ou très très loin, mais vraiment très très loin d'un accord, à votre avis?
Écoutez, je ne sais pas. Mais tout indique, malgré tout, qu'il est inimaginable maintenant que le Parti Socialiste ne rentre pas dans l'accord qui a déjà été conclu avec le Parti communiste, sans doute, et avec les écologistes en tout cas. Ce que vient de nous dire Michel, c'est intéressant. C'est la formidable demande d'union de la part des électeurs de gauche. Et qui est, je dirais, dans la tradition historique de la gauche. L'union, l'unité sont des thèmes de référence absolue de l'histoire de la gauche. C'est une nécessité pour ces élections législatives. Le problème de ces législatives, c'est qu'avec une très forte abstention, l'extraordinaire difficulté est d'accéder au second tour. Pour accéder au second tour, il faut 12,5% des inscrits, c'est-à-dire 20 ou 25% des suffrages exprimés s'il y a une très forte abstention, ou être dans les deux premiers à l'issue du premier tour. Et donc, on voit bien une gauche unie, a beaucoup de chances de se qualifier pour les seconds tours, où là, le jeu, à ce moment-là, devient ouvert. Donc, c'est une nécessité politique et électorale. Et puis, c'est évidemment, Jean-Luc Mélenchon, avec beaucoup de talent, a récupéré un certain espoir que la gauche puisse continuer d'exister, de peser politiquement, et qui sait, de gagner les législatives. Reste malgré tout, derrière cette demande d'union, on voit bien, une véritable recomposition politique, mais je ne veux pas abuser du temps de parole, donc nous y reviendrons.
On y reviendra forcément. Marc Lazare, est-ce qu'on a bien vu que, je le disais en introduction, sur un certain nombre de sujets, on s'est assis sur ce qui faisait les grosses différences, on a mis tout ça sur le tapis pour le moment. Mais j'ai envie de vous le demander comme ça, est-ce que c'est si grave, en fait, d'avoir mis tout ça sur le tapis et de se dire que, en effet, on verra plus tard, on saura plus tard. On se souvient, vous allez, l'historien que vous êtes va pouvoir nous le rappeler, en 97, il n'y avait pas d'accord de programme dans la gauche plurielle. Mais il y avait un accord qui disait on se désiste pour l'un ou pour l'autre au moment des législatives. Donc est-ce que c'est grave, en fait, si sur les programmes ça ne matche pas ?
Non, ce qui est nouveau, c'est l'improvisation dans laquelle tout ça se réalise. Mm-hmm. C'est le temps accéléré de gens qui s'étaient envoyés des noms d'oiseaux pendant toute la campagne présidentielle et qui tout d'un coup insistent plus sur les points communs que sur les différences que chacun des candidats n'avait cessé de souligner. Et en particulier Anne Hidalgo, Yannick Jadot et Fabien Roussel. Bon, si on prend un peu d'histoire, il y a trois expériences sur lesquelles on peut réfléchir. 1936. Mais 1936, c'est le programme du Rassemblement Populaire qui est adopté en janvier 36, qui aboutira à la victoire du Front Populaire quelques mois plus tard. Mais c'est précédé en mai 36, le 3 mai 1936, le second tour, d'où l'importance aujourd'hui
exactement,
de cette date.
La date d'aujourd'hui. Bon,
et sur lesquelles la France Insoumise insiste beaucoup. Mais attention, c'est après une année et demie de discussions, de tractations, de rapprochements, notamment entre les communistes et les socialistes, qui se battaient littéralement, qui s'affrontaient depuis 1920, depuis la naissance du Parti communiste français. 1972, le programme commun, c'est à l'issue de 10 années de travail entre les socialistes et les communistes, donc à partir de 1962. Et 1997, c'est 2 ans de travail à partir de 1995, à l'initiative de Lionel Jospin, dans la perspective des législatives de 98 qui ont été avancées du fait de la dissolution. Donc ça, c'est un changement considérable, c'est le tempo. Hein, et à chaque fois, l'union ne signifiait pas l'unité. Parce qu'à chaque fois, ces programmes, 1936, le Front Populaire, très rapidement, s'est désagrégé avec des divisions très profondes. Parce qu'effectivement, à chaque fois, on met sous le tapis un certain nombre de questions. Et ça explose lorsqu'on est au pouvoir. Ça a été le cas du Front Populaire. Ça a été le cas en 1972, puisqu'en 1977, le programme commun est fort clos. Voilà. Parce qu'il y a la confrontation entre les communistes et les socialistes. Alors ça a marché en 1997, précisément parce que vous avez raison, il n'y a pas de programme commun. En fait, il y a une déclaration commune Parti Socialiste et Vert très approfondi et juste des déclarations minimales avec le Parti Communiste Français, le Parti Radical de Gauche et, on l'oublie, le Mouvement des Citoyens de Jean-Pierre Chevènement. Ce que nous a dit Michel est intéressant, hein, c'est le dilemme du Parti Socialiste. Oui. Est-ce qu'il faut aller vers la France Insoumise ? Est-ce qu'il faut aller pour certains vers Macron ? Ou est-ce qu'il faut préserver quelque chose d'autre et refonder ? C'est la position ce soir de Bernard Cazeneuve.
Mais est-ce qu'on est obligé de se fondre à l'intérieur d'une alliance ? Parce que ce qui semble poser problème, c'est effectivement ça. C'est l'idée de se fondre à l'intérieur d'une alliance où on a l'impression chez les socialistes qu'on y perdrait son âme. Est-ce qu'on peut pas imaginer quelque chose comme en 97 où au fond ce qu'on dit au moment de l'élection législative, c'est je me désisterai pour le premier arrivé, en fait.
Ce qui évite, c'est exclu.
Absolument.
C'est exclu dans ce schéma pour la raison que j'ai indiquée, c'est le ticket de qualification pour le second tour. Si vous avez une gauche qui se présente avec plusieurs candidats au premier tour, elle n'accédera pas au second tour dans la plupart des circonscriptions, car vous aurez à ce moment-là En Marche, le Rassemblement National ou les Républicains, voire les deux, qui devanceront les différents candidats de gauche. Et c'est là ce qu'a saisi Jean-Luc Mélenchon dans cette affaire, ce qu'il n'avait pas fait en 2017 après une première performance à la présidentielle. L'objectif véritable, c'est de mettre la main sur la gauche tout entière. Et là, c'est là où est le changement majeur. Parce que l'unité qui se crée pas, mais l'union qui se fait, elle se fait sur la partie la plus radicale de la gauche. C'est ça un changement d'habitude, c'est plutôt sur l'aile réformiste qui domine que s'organisent des choses. En 1936, je parle devant un grand historien, donc je veux montrer que je connais aussi un peu les choses. En 1936, normalement, c'était le Parti Radical qui était annoncé comme le parti le plus important de la coalition, et on pouvait penser que ce serait Édouard Daladier qui accéderait à la présidence du Conseil. Pas du tout. La SFIO a devancé les radicaux, déplacement vers la gauche, et c'est Léon Blum qui est devenu le président du Conseil. Donc, et après la période ouverte par le cycle d'Épinay du Parti Socialiste, c'est le Parti Socialiste avec un tournant à gauche, mais qui incarnait quand même l'aile, je dirais, la moins radicale au sein de l'Union de la Gauche par rapport au Parti communiste français, et qui même s'est servi de l'affaiblissement du Parti communiste français, l'a en partie construit, cet affaiblissement du Parti communiste, pour dominer. Et là, nous sommes sur la partie la plus radicale de la gauche. C'est un changement absolument majeur. Quelle va être la conséquence pour les législatives? Est-ce que ça va inquiéter une partie de l'électorat de gauche réformiste qui, du coup, ne votera pas pour ses candidats dans les circonscriptions, surtout quand la plupart des cas, ce sera un candidat issu de la France insoumise? Ou au contraire, est-ce que le grand vent de l'Union balayera tout parce que ces candidats de la France insoumise mettront uniquement la bannière de cette alliance et ne mettront plus l'accent sur les différences qui existent?
Et je pense que c'est ça, effectivement, qui fait la différence. Michel nous dit, pour survivre, le PS doit s'allier, mais la crainte du PS, c'est de se dissoudre à l'intérieur de cette alliance-là. Comment ça se pèse, ça, à votre avis, Marc Lazare?
Ah ben, je crois que c'est le débat, effectivement, à l'intérieur du Parti Socialiste, c'est ce qui explique pourquoi les négociations sont si difficiles, sans compter que Laurent Baumel, qui est un des négociateurs pour le Parti Socialiste, a dit, il faut prendre du temps, parce que sinon, nos électeurs ne comprendraient pas, sous-entendu, d'avoir retourné notre veste aussi rapidement. Il y a une différence avec 1972 et le programme commun, je me permets de le dire à Jérôme Jaffray, mais
c'est
si
le
grand
historien
bien,
qui s'exprime.
Mais comme vous le savez très bien, François Mitterrand, un programme à gauche, très à gauche sur les questions économiques et sociales, beaucoup de concessions au Parti communiste, c'est l'atmosphère de l'époque, mais une intransigeance sur trois points, les institutions, l'Europe et les questions internationales. Mmh. Et ce qui est frappant, c'est que ces trois points, effectivement, sont des couleuvres à avaler pour Olivier Faure, pour le Parti Socialiste. Et donc, effectivement, c'est le grand débat au sein du Parti Socialiste. Est-ce que, pour les raisons qu'a indiqué Jérôme Jaffray, est-ce qu'il faut s'allier pour essayer d'avoir un groupe parlementaire? Parce que ce qui est habile dans la proposition de Jean-Luc Mélenchon, il y a plusieurs habiletés. Oui. D'abord, c'est la personnalisation de toute cette campagne législative. C'est-à-dire qu'à 577 fois...
De la part d'un homme qui a toujours été contre la personnalisation de la vie politique.
Bien évidemment, et vous avez remarqué que pour les 577 circonscriptions, c'est Jean-Luc Mélenchon, Premier ministre. Bon, donc, ça c'est un élément important. Il paraît qu'il veut imposer justement cela sur toutes les affiches, et que c'est un des points sur lesquels cristallisent les oppositions. Donc ça, c'est effectivement un point qui est difficile à avaler pour le Parti Socialiste.
Vous parlez de personnalisation, justement. Est-ce que c'est... En gros, la figure de Jean-Luc Mélenchon, jusqu'à quel point c'est un avantage et un inconvénient? Pour les socialistes, on a bien compris que ça tiraillait. Mais jusqu'à quel point c'est ce qui emmène les gens aux urnes? Oui. En fait, parce qu'on sait bien, électoralement, que c'est un électorat qui ne va pas forcément aller voter, en tout cas, statistiquement, n'a pas été voté particulièrement aux élections législatives en 2017. Donc il faut les emmener jusqu'aux urnes. Ils n'y vont pas forcément. On sait que l'abstention, évidemment, peut faire capoter ce qu'essaye de faire Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui. Donc est-ce que ça permet... Personnalisation est un avantage au fond ou un inconvénient? Qu'est-ce qu'il emporte l'un sur l'autre?
Dans l'immédiat, c'est à mon sens un avantage évident pour ces élections législatives. Alors évidemment, l'expression « élisez-moi comme Premier ministre » est institutionnellement totalement absurde, car c'est le Président de la République qui désigne le Premier ministre et on n'élit pas le Premier ministre. Bon, cela dit, Lionel Jospin, par exemple, pour revenir à cet exemple, en 1997, était bien le leader de la coalition et il est sorti de l'Élysée en disant aux journalistes, il n'a même pas laissé le soin à Jacques Chirac d'annoncer et au service de presse de Chirac d'annoncer quoi que ce soit. Il est sorti, il est tourné vers les journalistes et il a dit j'ai accepté la poste de Premier ministre.
C'était après les résultats.
Ah, bien sûr. Ouais. Bien entendu, après les résultats, il a quand même pas.
Non, je veux dire, c'était pas Lionel Jospin Premier ministre.
L'audace jusqu'à le faire. Donc, en tout cas, Mélenchon, c'est un avantage dans l'immédiat. Maintenant, le problème, c'est ce basculement vers la radicalité. La recomposition politique, c'est quelque chose qui dépasse de beaucoup les élections législatives, ce qui se passe. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que pour moi, nous avons deux changements politiques absolument majeurs dans notre paysage et peut-être durables. D'une part, c'est la renonciation de la part d'Europe Écologie Les Verts à jouer un rôle primordial au sein de la gauche dans les prochaines années, à jouer le rôle de tête de coalition pour gagner, et au fond, en considérant que l'écologie politique peut devenir la première force en France à terme. Le fait que les écologistes soient passés dans les conditions à obtenir un groupe parlementaire et accepter de céder sur l'Europe, comme le rappelait Marc Lazare, parce qu'ils ont très largement cédé sur ce sujet, même si l'application, ce sera sans doute autre chose si ça devait se faire, malgré tout, c'est quelque chose. Donc, renonciation du fait de jouer le rôle leader et d'espérer jouer le rôle leader. Et deuxième modification fondamentale de recomposition politique, c'est l'abandon du socialisme réformiste tel qu'il est pratiqué dans énormément d'autres pays européens et tel qu'il est au pouvoir dans beaucoup d'autres pays européens. Et en ce sens, alors avec effectivement le poids qu'a eu Macron sur la modification du système de parti, Mélenchon organise à son profit un autre changement majeur après celui de Jean-Luc, après celui d'Emmanuel Macron, qui fait que le socialisme réformiste devient effectivement extraordinairement affaibli. Parce que rejoindre Macron, c'est achever de se diluer politiquement et rester indépendant à suite d'une scission qui va venir, probablement des socialistes, mais malgré tout, c'est repartir dans des conditions, alors pour rester avec mon grand historien, dans des conditions aussi difficiles, presque qu'en 1920 pour la SFIO.
Alors, avant de retourner si loin, je voudrais qu'on aille au standard rejoindre Mathieu. Bonsoir Mathieu. Mathieu,
oui, bonsoir.
On vous écoute Mathieu. Allez-y Mathieu.
Oui, alors, donc... moi, je voulais juste dire que, effectivement, j'ai voté... Jean-Luc Mélenchon, enfin la France Insoumise au premier tour des élections présidentielles, et que donc forcément j'ai voté Macron au deuxième tour, et puis là, quand je vois les tractations qui sont en train de s'opérer, en réalité, moi personnellement, je suis un Européen convaincu, et ça me gêne beaucoup de voir que la France Insoumise impose. Une désobéissance
au traité européen.
Ouais, moi ça personnellement, c'est tellement rédhibitoire que je préfère encore. Et pourtant, Dieu sait que c'est pas mon bord politique. Je préférerais voter La République en Marche que de voter la France Insoumise, la coalition pour la coalition, si jamais ils n'étaient pas au clair là-dessus et que toute tentative de Frexit, enfin je sais pas comment on dit en
Frexit,
français,
mais voilà. Bon,
La moindre idée d'aller à l'encontre de la construction européenne de la part d'un pays majeur qu'est la France.
Vous pose souci, Mathieu. On a bien entendu ce que vous disiez, Marc Lazare. Ça a été un peu édulcoré, mais finalement pas beaucoup, en fait, dans l'accord avec les Verts notamment, puisqu'on dit, il est écrit qu'il n'y aura pas de sortie de la France de l'Union européenne. Le mot de désobéissance est maintenu, mais dans le respect de l'état de droit. Et pour être tout à fait honnête avec vous, moi j'ai pas bien compris ce que ça voulait dire.
Personne n'a compris. Okay, mais évidemment, c'est une ambiguïté. Mais encore une fois, tous ces accords obligatoirement sont des accords de compromis, donc il y a plein d'ambiguïtés, celle-ci est manifeste, personne ne comprend ce que ça veut dire, et chacun pourra l'interpréter comme il veut. Et ce qui est très intéressant, c'est que tout à l'heure a été publié le communiqué, la déclaration commune, France Insoumise et le Parti Communiste Français. Et c'est pas les mêmes.
Non, non.
Il y a plusieurs nuances. Du côté des Verts, on insiste beaucoup sur toute la dimension écologique qui est beaucoup moins présente dans le communiqué avec le Parti Communiste Français, qui ne parle plus du nucléaire.
Du tout.
Alors qu'encore une fois, Fabien Roussel avait fait du nucléaire un des éléments déterminants de son identité, de sa différence avec Mélenchon. Il a dit, bon, maintenant, on verra après. Ça va être un peu compliqué pour le vendre à tous ceux de l'industrie nucléaire qui ont voté pour Fabien Roussel, même s'ils n'étaient pas nombreux, mais c'est important dans ce secteur, et notamment sachant les liens qui existent entre Parti communiste français et CGT de l'énergie. Donc, ça c'est un point important. Et quand vous regardez, justement, la déclaration Parti communiste, la France insoumise, alors, en revanche, sur l'Europe, c'est beaucoup plus dur que la déclaration commune avec les Verts. Et ça, c'est les accords à géométrie variable du type 1997. Et on peut s'attendre, s'il y a un accord avec le Parti Socialiste, encore un troisième communiqué, une troisième déclaration commune, où on va essayer d'enrober tout ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est très intéressant, parce que là, c'est un point sur lequel on peut peut-être s'interroger sur le futur. Parce que Jérôme Jaffray a tout à fait raison de dire que la grande ambition de Mélenchon, bon, c'est de devenir Premier ministre. S'il gagne, très bien, on aura une cohabitation explosive. S'il perd, il va essayer, effectivement, vous l'avez dit, de installer une hégémonie de la France insoumise sur la gauche, sur le pôle de radicalité. Mais en même temps, et c'est son autre habileté, mais qui est dangereuse pour lui, il a accepté la possibilité de former des groupes parlementaires pour ses alliés, c'est-à-dire s'ils ont plus de 15 députés. Les Verts et le Parti communiste. Mais qu'est-ce qui va se passer ?
Et le Parti socialiste.
Et le Parti socialiste, vous avez raison, j'oubliais. Et évidemment, ces groupes parlementaires, mais très rapidement, là je prends un pari, vont manifester leurs différences très rapidement. Au bout de 6 mois, au bout d'un an, ils vont vouloir essayer de reconquérir un espace politique. Et on retrouve ce dilemme de la gauche, elle fait une union, mais elle n'arrive pas à faire l'unité. Et par conséquent, à chaque fois, l'établi, on remet l'unité et l'union plus exactement sur l'établi.
Jérôme Jaffray, la question de Mathieu nous intéresse aussi parce que, est-ce qu'on n'oublie pas en route quand même que des Mathieu, il y en a eu beaucoup au premier tour et que ce sont les Mathieu qui ont fait ce score de 22,5% pour Jean-Luc Mélenchon. Donc ce sont des gens qui, eux aussi, l'ont joué vote utile en direction de Jean-Luc Mélenchon. Donc est-ce que dans ces accords-là, on oublie qu'il y a plein de Mathieu aussi et qu'au fond, le score de la France insoumise, c'est pas 22%. C'est pas 22% pour Jean-Luc Mélenchon. C'est 22% de vote utile et d'une sorte de coalition de fait qu'ont créé les électeurs.
C'est toute la réussite de Jean-Luc Mélenchon dans la période actuelle, effectivement. C'est-à-dire de transformer l'élan que lui ont donné des électeurs qui n'avaient pas l'intention de voter pour lui. Il était à 15 ou 16% en réalité dans les sondages à quelques jours du scrutin. Mais le mouvement final pour essayer de porter le candidat le mieux placé de la gauche au second tour a joué en sa faveur et il le transforme en un soutien politique. Et le score très très faible des autres candidats de gauche, évidemment, l'aide beaucoup dans cette affaire. Une explication possible et une réflexion sur les problèmes programmatiques. D'abord, cette histoire de désobéissance dont on vient de parler
dans l'état de droit,
dans la déclaration des Verts et de la France insoumise et de l'histoire de l'état de droit. Alors, je fais l'hypothèse, mais il faudrait interroger les signataires et en particulier les écologistes, qu'on veut bien marquer que ça, les désaccords et les désobéissances peuvent s'appliquer à des règles économiques ou environnementales, mais en aucun cas à des choses qui remettraient en cause l'état de droit. C'est-à-dire qu'une
donc
évolution...
Donc on n'est pas la Hongrie, c'est ça
voilà,
que vous
c'est dites. Ni la Hongrie, ni la Pologne. Et il faut être un écologiste assez subtil pour avoir ajouté cette dimension-là qui laisse une grande perplexité, c'est mon hypothèse. Mais tous ces désaccords programmatiques possibles, ils se posent en réalité si les électeurs pensent que cette coalition peut ou va gagner. Ça cesse de se poser si l'objectif réel de la coalition bâtie par Mélenchon et la France insoumise, c'est de peser très fort dans le Parlement face à Emmanuel Macron et à son pouvoir pendant les 5 prochaines années, en représentant une opposition très puissante, en redonnant beaucoup de force au Parlement, en faisant de Jean-Luc Mélenchon, dont je serai prêt à prendre le pari, qu'il sera lui-même candidat à ces élections législatives, car si vous vous retrouvez avec un groupe de 150 députés de la France insoumise, hypothèse plausible, dans cette Assemblée nationale nouvelle, quel bonheur pour Jean-Luc Mélenchon d'être le grand leader politique de cette bataille à mener pendant 5 ans. Donc, si les électeurs considèrent que l'objectif c'est que la gauche soit assez forte pour exister politiquement, on ne s'interrogera pas vraiment sur les différences programmatiques. Si on croit qu'elle va gagner, alors là, le débat devient l'Europe, l'international, la retraite à 60 ans, par exemple. Aucun des pays européens dirigé par une force de gauche, n'applique la retraite à 60 ans. C'est une des questions, mais il n'est pas sûr qu'on la pose.
Allez-y, Marc Lazare, retour au standard juste après.
C'est très intéressant de voir que dans la déclaration commune avec le PCF, la phrase sur l'état de droit n'existe pas. Elle n'existe pas. Donc,
N'en tirons pas des conclusions définitives sur l'intérêt du PCF pour l'état de droit.
Non, c'est pas ça. Ce qui est très intéressant, encore une fois, c'est ce système à géométrie variable. Et effectivement, le Parti communiste français n'a pas considéré que c'était nécessaire de rajouter cette phrase. Et sans doute, la France insoumise a été très contente de l'effacer. La deuxième chose très intéressante dans la dynamique qu'essaye de provoquer Mélenchon, d'abord pour essayer d'obtenir cette victoire électorale, ou en tout cas un groupe très important, en fait, serait une coalition, il l'a très bien dit, serait une coalition, c'est que ça s'accompagne aussi de tout un discours, c'est la préparation du 4e tour social. Et ça, en permanence, quand vous regardez les publications de la France Insoumise, quand vous entendez les différents responsables, c'est de dire on va gagner, et si on gagne pas, et même si on gagne, il faudra le parallèle avec 36 est très intéressant, c'est de dire si on gagne, il faudra s'appuyer sur un grand mouvement social qui va se déclencher, alors que je rappelle que le mouvement social de 1936 est arrivé avant la constitution du gouvernement Léon Blum. Ça a mis très longtemps pour que Léon Blum arrive à Matignon.
Denis est avec nous, pardon. Denis, on vous écoute, allez-y.
Oui, bonsoir.
Allez-y, Denis.
Donc voilà, je suis domicilié dans le Tarn, donc le pays de Jean Jaurès, donc et je récuse quant à moi donc cette alliance contre nature, donc avec ce que j'appelle l'extrême gauche, représentée par Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon est pour moi donc et pour l'ensemble des sociaux-démocrates européens donc un ennemi de la République, un adversaire résolu de la construction européenne. Un partisan du communautarisme et donc effectivement donc c'est une forfaiture que cette union cette pseudo-union de la gauche qui n'en est pas une, qui ne ressemble en aucune manière au programme commun de 1972 encore moins donc aux alliances qui ont été conclues en 1997 donc autour de Lionel Jospin, car la personne de Jean-Luc Mélenchon n'a ni la hauteur de vue, ni le charisme de Lionel Jospin. Donc, pour moi, donc.
On a entendu Denis. Pour vous, c'est non. Contrairement à votre votre ami socialiste, j'allais dire premier auditeur tout à l'heure. Et je reviens. Merci beaucoup, Denis, à ce qu'on disait tout à l'heure. Ça achoppe vraiment sur la personnalité de Jean-Luc Mélenchon à certains égards, en fait. Et on se demande même parfois. Vous allez m'arrêter si je me trompe. Si la difficulté en ce moment n'est pas vraiment aussi une question de ressentiment, parce que le ressentiment entre le Parti socialiste et Jean-Luc Mélenchon ne date pas d'hier. Est-ce que ça aussi, ça joue terriblement dans cette difficulté d'accord.
Chez les militants, certainement. Pas chez les électeurs. Je crois qu'ils ne connaissent pas les subtilités des bagarres au sein du Parti Socialiste. Et effectivement,
croyez-vous ?
Enfin, peut-être les électeurs les plus informés. Mais là, on entend quelqu'un qui est en plus dans la région historique du socialisme, ouais. Celle de Jean Jaurès, comme ça a été rappelé dans le Tarn. Et évidemment, on sent quelqu'un qui est très impliqué dans la politique, qu'il soit membre du parti ou proche du parti. Mais on sent quelqu'un qui connaît parfaitement, un auditeur qui connaît parfaitement toutes ces subtilités. Oui, il y a une dimension personnelle très forte. Et puis, il ne faut pas oublier les mots très violents, très durs, qu'a souvent utilisé Jean-Luc Mélenchon, d'ailleurs, comme ses adversaires. Il a clairement dit qu'il voulait détruire le Parti Socialiste, hein, quand il a créé d'abord le Parti de Gauche, puis ensuite la France Insoumise.
C'est pour ça que je vous pose la question. Là-dessus, les militants, effectivement, n'ont pas la mémoire courte.
Oui, mais... et je pense que Olivier Faure non plus, et que Fabien Roussel non plus. Ils savent très bien ce que pense Mélenchon. Mélenchon a humilier les communistes à plusieurs reprises en 2017, mais alors que c'est grâce au Parti communiste aussi qu'il a pu faire la campagne de 2017, parce qu'il y avait tout ce qui restait de l'appareil du Parti communiste. Il les a humiliés, il les a maltraités. Donc à l'intérieur du Parti communiste, il ne faut jamais oublier que lorsque Fabien Roussel a été désigné secrétaire du PCF, c'était contre une ligne qui disait qu'il fallait soutenir Jean-Luc Mélenchon dès le premier tour. Par exemple, Marie-Georges Buffet, ancienne ministre du gouvernement Jospin. Donc effectivement, je pense qu'il y a beaucoup de rancœur, beaucoup de ressentiment, et ce qu'on vient d'entendre est typique d'un certain nombre de militants socialistes, mais d'après moi communistes, et je dirais aussi de militants verts, d'écologistes. Mais qu'est-ce qui explique justement cette volonté de passer des accords malgré tout ? C'est ce qu'a expliqué Jérôme, c'est pour faire en sorte que ces différents partis sauvent leur groupe parlementaire, on accepte ça, et puis on signe un accord, ils ont obtenu cette chose, je le répète, très importante, la possibilité de constituer des groupes parlementaires. C'était pas donné d'avance, Mélenchon a cédé là-dessus. Mais du coup, il y a évidemment des éléments de division qui immédiatement se manifesteront après, selon moi.
Jérôme Jaffray.
Oui, l'idée quand même, c'est la recette du pâté de l'alouette dans cette affaire. Vous avez un groupe qui sera énorme, qui sera le groupe de la France Insoumise, par les investitures qu'il aura récupérées, et des petits groupes, des tout petits groupes à côté, puisque la barre est à 15 députés, et on peut penser que pour les communistes et les verts, on restera assez proche de ce chiffre. Les socialistes ont une trentaine de sortants, donc ils sont un peu plus gourmands. Mais on voit bien dans les remarques de nos auditeurs, et dans la critique, il y a une critique propre à Mélenchon et une critique de la radicalité du programme. C'est deux choses. Et on voit bien que tout ça est de nature à faire le jeu en partie d'Emmanuel Macron et de La République En Marche dans ce système politique tel que nous l'avons. Puisque vous n'avez plus une offre réformiste de centre-gauche pour ces élections, à ce moment-là, les électeurs, si cette coalition de l'Union Populaire Nouvelle dans la perspective du second tour, est en passe éventuellement d'accéder au pouvoir, il n'y a qu'une semaine, vous me direz, entre les deux tours, vous pouvez avoir des retournements. Je pense, je parle toujours devant le grand historien Marc Lazare, je pense aux élections législatives de 1978, où il y a eu retournement entre les deux tours, contre la coalition du programme commun, et l'empêcher d'accéder au pouvoir. À ce moment-là, vous avez effectivement un bonus possible pour La République En Marche, d'électeurs réformistes réformistes qui ne voudront pas que ce programme de radicalité et d'un Mélenchon Premier ministre pesé politiquement, oui, gagné, beaucoup plus hésitant.
Regardez ce que nous dit David qui est à Grenoble. Il nous dit, est-ce qu'un accord national vaut accord locaux? Est-ce qu'ils seront respectés au niveau local? Il y a toujours des tensions, nous dit-il. Est-ce que tout cela sera vraiment possible?
Non, mais David de Grenoble a tout à fait raison, bien évidemment. Et ça aussi, historiquement, ça a toujours été le cas. Lorsque, par exemple, les socialistes ont accepté, à partir de 1997, de céder des circonscriptions aux Verts. 29, si je me souviens bien, la première fois, puis c'est monté en puissance progressivement en fonction de la progression des Verts. Mais il y a eu une série de refus de la part de socialistes d'admettre que des Verts soient candidats justement dans les circonscriptions dont ils pensaient qu'elles leur, en quelque sorte, elles leur appartenaient. Donc c'est évident qu'avec cet accord, et c'est ce qui inquiète d'ailleurs un peu la France insoumise, c'est d'essayer de faire en sorte que cet accord soit respecté pour avoir l'ambition d'atteindre le chiffre très impressionnant que j'entends ce soir dans la bouche de Jérôme Jaffré, dont on connaît l'expertise, de dire 100 à 150 députés alors qu'ils en ont actuellement 17. C'est énorme si ça se fait, mais justement, je pense qu'il y aura effectivement des dissidences, des refus d'obtempérer de la part de socialistes, de la part éventuellement de Verts, dans plusieurs circonscriptions. Il y aura des bagarres extraordinairement difficiles. C'est évident, ça a toujours été comme ça, et ça risque d'être encore plus aujourd'hui, vu les divergences qu'on voit bien apparaître avec les différentes interventions de nos éditeurs.
Et alors justement, cette question d'Elisa dans la Meuse, on voit bien qu'il y a effectivement un accord là pour France Insoumise avec Europe Écologie Les Verts. On a enlevé plus ou moins l'histoire européenne entre la France insoumise et les communistes, et on a complètement enlevé l'histoire du nucléaire. Mais Elisa pose cette question, comment concilier Europe Écologie Les Verts avec les communistes sur la question du nucléaire, par exemple? Parce qu'il y a aussi des sous-groupes à l'intérieur de cette alliance-là. Comment ça se concilie, ça?
Il est évident que le paysage partisan va continuer d'évoluer. C'est-à-dire, j'évoquais l'hypothèse d'une scission chez les socialistes, il y a également chez les écologistes la probabilité d'une scission aussi. C'est-à-dire que on voit, les écologistes, ELV a toujours été très divisé politiquement, c'est le charme de l'écologie.
Et parce que c'est la branche Sandrine Rousseau qui a finalisé l'accord avec avec la France Insoumise.
Et donc on voit bien, par exemple, Yannick Jadot. Le texte qui a été fait sur l'Europe est en réalité inacceptable pour Yannick Jadot, qui probablement mettra tout ça sous le tapis jusqu'aux élections législatives, mais ensuite, il y aura des règlements de compte et il peut y avoir des scissions et des écarts. Mais je reviens à ce que je disais, si le programme devait être fait pour être appliqué, les rappels que nous avons faits de difficultés de la gauche au pouvoir éclateraient extrêmement vite. Vous avez effectivement des sujets de division majeurs, il est vrai que le nucléaire par exemple, comme les énergies renouvelables ne peuvent pas produire 100% de l'énergie nécessaire avant de longues années et des investissements tout à fait considérables, le fait de dire qu'on veut renoncer au nucléaire, en fait, très vite, on dira que c'est un objectif et qu'on s'en donne les moyens de l'atteindre dans les 10-15 années à venir. Donc, ça sera le problème de passer du programme annoncé aux difficultés de l'exercice du pouvoir, qui a toujours été, pour la gauche, entre la conquête et l'exercice du pouvoir, toujours le problème le plus difficile et le plus délicat. Mais la rhétorique Mélenchon est assez exceptionnelle pour couvrir ce genre de sujet, c'est-à-dire qu'il peut construire les ennemis nécessaires pour expliquer que les difficultés que l'on rencontre ne sont pas dues à l'absence d'ambition, de courage, de volonté de faire les choses, mais au mur d'ennemis qui se dressent et qui obligent la gauche à tenir compte, la gauche de l'Union Populaire, à tenir compte de tout cela pour avancer moins vite qu'elle ne l'espérait. Je peux presque d'ores et déjà vous faire le discours.
Voilà, Marc Lazare, et puis on retourne au standard rapidement.
Oui, PCF vert, ça n'a jamais été possible. En 97, c'était pas possible qu'ils aient même une déclaration commune. Ce sera impossible, évidemment. Puis vous vous souvenez des déclarations de Fabien Roussel sur les questions, y compris j'aime bien le beefsteak, le vin rouge, etc. Contre les bobos verts, etc. Donc je vois pas comment ils pourront agir ensemble. Mais il y a un sujet qui n'est absolument pas abordé actuellement dans ces déclarations communes, sauf une allusion dans le texte LFI vert. C'est la guerre en Ukraine. Et on vit actuellement quand même une situation inédite en Europe depuis 1945, un pays qui en avait un autre. On connaît les positions de Mélenchon, on connaît les positions des Verts. Les communistes ont été plus. On a vu aussi le parti. Les communistes étaient entre les deux, les socialistes étaient très fermes.
Oui, mais est-ce qu'on n'est pas en train de se dire là, Marc Lazare, si jamais le pari de Jean-Luc Mélenchon réussit et qu'il a la majorité, qu'il est donc le Premier ministre, il y a des choses, la guerre en Ukraine, l'OTAN, l'Europe, qui restent de toute façon de la prérogative du président de la République. Donc ce sera autant de moins, de toute façon, qu'ils auront à discuter les uns les autres. autres ou pas?
Moi, je vois pas comment cette cohabitation. Alors, mais je pense qu'il y a une grosse différence. C'est que les cohabitations précédentes se structuraient avec des partis beaucoup plus solides qu'aujourd'hui et qui avaient, bien sûr, des désaccords importants, mais un sens des institutions et du pays qui faisait que sur les sujets cruciaux, notamment de politique internationale, on arrivait à trouver des accords. Là, c'est explosif sur des questions fondamentales qui relèvent effectivement de la présence de la République.
Il nous reste quelques minutes. Elles sont pour vous, Elisabeth. Bonsoir.
Oui, bonsoir.
On vous écoute, Elisabeth.
Merci d'avoir pris mon appel. Et bonsoir à tout le monde. Alors, bon, pour rebondir un petit peu sur une des dernières phrases que l'intervenant vient d'évoquer, sur je ne sais pas comment ils vont faire tous ensemble. Eh bien, moi, je suis une femme de gauche. J'ai toujours été de gauche. J'ai voté une fois M. Macron. Et bon, voilà, j'avais pas le choix de faire autrement. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a une vraie joie. Il y a une vraie joie pour les gens de gauche de voir, en fait, tous ces partis se réunir. Alors, certes, ça va être très difficile. Certes, ils n'ont pas beaucoup de temps. Mais je pense que, effectivement, c'est bien de reparler de l'histoire. C'est bien d'avoir des références. Mais ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est qu'aujourd'hui, dans ces partis, il y a énormément de jeunes femmes, de jeunes hommes, que ces gens-là travaillent différemment qu'avant. Et que je pense qu'il y a une vraie conscience de se dire que c'est peut-être une dernière fois où on peut effectivement se réunir, avoir plusieurs forces de gauche et réfléchir. Et je pense que c'est que ce soit Mélenchon, que ce soit les communistes, que ce soit les écologistes, que ce soit les socialistes, je pense que, et j'ai envie d'y croire, qu'ils ont une réelle conscience, aujourd'hui, c'est peut-être une de leurs dernières chances. Est-ce qu'à droite, est-ce que les Républicains pourraient faire la même chose aujourd'hui? Non, non. La gauche peut le faire encore. Alors moi, je dis bravo et j'y crois. Et j'y crois vraiment.
Voilà, eh ben, on a entendu, Elisabeth, merci beaucoup. Et que ne l'ont-ils fait, d'ailleurs, précédemment, quand on entend Elisabeth, on se dit que ne l'ont-ils fait l'année dernière, il y a deux ans, enfin pour arriver vers l'élection présidentielle, Marc Lazare?
Non, mais je crois qu'on l'a rappelé en début d'émission, Jérôme l'a rappelé, et c'est vrai qu'il y a cette pression de ce qu'on appelle le peuple de gauche et qui a envie de prendre sa revanche contre l'extrême droite, sa revanche contre Emmanuel Macron, une partie de l'électorat d'Emmanuel Macron. Macron, en 2017, venait de la gauche. Une partie de cet électorat est restée auprès d'Emmanuel Macron, d'autres est déçue. Et par conséquent, oui, il y a l'idée, la gauche doit exister, quel que soit le contenu. C'est très fort, enfin, je crois qu'on on oublie trop qu'il y a quand même une culture politique ancrée dans l'histoire, où il y a des gens qui continuent de se déclarer de gauche et de droite, et on le sent dans ces interventions. Mais on sent bien, au cours de cette émission, ce qui est passionnant, c'est vraiment tous les dilemmes qui traversent l'électorat de gauche aujourd'hui. Est-ce qu'il faut accepter cet accord? Ou est-ce que, quand même, on considère qu'il y a un certain nombre de principes intangibles sur lesquels on ne peut pas, justement, accepter des compromis?
Avec un ultimatum qui disait « ce soir ou jamais », dont je pense qu'il n'existe pas en réalité, même si un accord se fait demain, après-demain, après-après-demain, j'imagine qu'il tiendra quand même. Et j'imagine aussi que cette conversation, on n'a pas fini de la voir, en fait, d'ici aux élections législatives. Je vous remercie beaucoup, tous les deux, vraiment, merci à tous pour vos très nombreuses questions.